Bonjour et bienvenue dans la saison 4 de Mettons le couvert. Aude, Laurence et moi-même, Stéphanie, nous sommes ravis de vous accueillir dans le podcast qui démystifie l'alimentation durable. Notre mission est de donner à chaque coup de fourchette un sens pour soi, pour notre société et pour notre précieuse planète, grâce aux témoignages d'acteurs et d'actrices inspirants. Car nous sommes convaincus que chaque petit pas compte.
Laurence, Stéphanie et moi-même, Aude, nous sommes ravis que vous soyez à nos côtés pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un aliment qui a toujours eu une place de choix à nos tables, comme dans nos vies. Et ce, depuis des temps immémoriaux. Vous avez une petite idée ? Eh oui, nous allons parler du pain. Quand je dis une place de choix, je pense que rien d'autre que le pain ne peut être vu comme le couteau suisse de la gastronomie. Capable d'être à la fois le repas, la cuillère quand on sauce et le plat, la croûte par exemple. Du matin au soir, nous aimons le savourer, moelleux et croquant. L'histoire du pain, c'est aussi une histoire de transformation. Au fil du temps, il a évolué, changeant de composition et de forme. Et voici une petite anecdote sur cette histoire d'innovation. Nous remontons dans le temps, pendant la construction du métro de Paris. Imaginez des ouvriers venus des quatre coins du pays, et notamment d'Auvergne et de Bretagne, deux régions au tempérament bien trempé. Naturellement, ils ne pouvaient pas se supporter. Pendant leur pause déjeuner, les ouvriers se coupaient des tranches dans d'énormes miches de pain, ce qui faisait que chacun était armé d'un couteau. Vous pouvez aisément vous figurer le niveau des bagarres entre ces deux camps ennemis. C'est là que les responsables du chantier ont eu une idée lumineuse. Ils ont fait appel à un boulanger. Il créa un pain qui pouvait être facilement coupé à la main. Et c'est ainsi qu'est née la baguette. Plus fine, plus longue, elle a permis d'éliminer les couteaux du chantier, réduisant ainsi les risques d'accident lors des querelles. N'est-ce pas une histoire délicieusement surprenante ? Le pain au cœur de notre alimentation et aussi au cœur de l'innovation. Et c'est la discussion que nous vous proposons aujourd'hui. Vous allez voir qu'ils ont un sacré parcours et qu'ils ont réussi, de la graine à la table, à réinventer le pain, sa valeur. Victor, Aurélie, bonjour et bienvenue à la table de Mettons le couvert.
Bonjour.
Bonjour.
Alors maintenant, je vais un petit peu vous présenter. Victor, tu es ingénieur en environnement. Et tu as décidé, après quelques années loin de la famille, de reprendre la ferme familiale de Prémartin à Longiraud, au pied du Jura vaudois. Avec une condition, que le domaine se convertisse au bio. C'est en 2017 qu'a débuté la reconversion. La même année, tu as accepté le projet du canton pour transformer le jardin de Marcelin, à Morges, près du lac, en une micro-ferme maraîchère. La ferme paysanne de Prémartin est donc située sur deux sites bien différents. Vous produisez selon les principes d'une agriculture biologique, dans un système de polyculture diversifiée, de la viande, des fruits et des légumes, de l'huile, de colza, de pavot, de la bière, du cidre, tous vendus en vente directe. Victor, nous t'avons rencontré grâce à Aurélie, que je connais depuis de longues années. Aurélie, tu es aussi ingénieure, tu as longtemps travaillé dans l'industrie agroalimentaire, tu as parcouru le monde pour parfaire qualité et productivité de volumes vertigineux de marques de céréales petit-déjeuner que nous avons tous eu sur notre table. C'est en participant à des projets de développement de circuits courts que tu as confirmé ton choix de changer de vie et c'était il y a tout juste 4 ans. Tu as commencé à te former en tant qu'artisan boulanger. Aurélie et moi, nous avons longtemps été collègues et je peux vous assurer que déjà ces tout premiers essais de baguettes croustillantes au levain, de brioches au chocolat et de panettone étaient à tomber par terre. C'est à Lucy-sur-Morge que tu as créé le fournil à deux pains de là. Nous vous avons invités tous les deux ensemble car vous évoluez déjà ensemble professionnellement. Vous faites partie de la même coopérative de circuit court avec l'épicerie Le Dorignol. Vous travaillez ensemble, l'un produisant la farine, l'autre le pain. Et vous venez de remporter un prix pour structurer une filière de pain artisanal de A à Z. C'est le projet Epimobile, soutenu par la plateforme Viva, qui sélectionne les meilleurs projets de la transition durable pour le canton de Vaud. Aurélie, Victor, comment allez-vous ?
Magnifiquement bien.
Très bien.
Alors, il est temps de vous laisser la parole, le micro, et on a préparé pour démarrer avec un petit rythme, deux, trois questions du tac au tac. Alors Aurélie, si on imagine que tu avais dans ton portefeuille ta carte d'identité alimentaire, qui lirait-on ? Quelles sont tes origines culinaires en quelque sorte ?
Alors je suis originaire d'un petit village savoyard où il y avait donc le boucher et le boulanger local. J'ai grandi nourrie au Beaufort, j'ai maintenant adopté le gruyère. Et ben, bonne table et le fait maison.
Et pour toi, Victor ?
Alors pour moi, le mélange est un petit peu plus atypique, parce que ça serait une douce moitié de poutine et de fondue moitié-moitié, car étant né au Québec, le plat le plus connu généralement du Québec, c'est une poutine. C'est pour ça, même si moi-même je ne l'apprécie pas forcément, on parle toujours de ça par rapport à mon origine culinaire, et une fondue qui au final est un plat que j'apprécie de manière assez récurrente, parce que c'est très facile à faire. Ça se présente dans plusieurs occasions et généralement on fait ça jamais seul.
Et on mange avec du bon pain.
Et on mange avec du bon pain, exactement.
Aurélie, comment tu te décrirais d'une façon un peu moderne avec un hashtag ?
Alors, peut-être sur la note humoristique, on pourrait dire hashtag bouclette et hashtag panettone, parce que c'est ma brioche préférée. Sinon, je pense qu'on pourrait dire hashtag je suis positive, hashtag déterminée et hashtag partage.
Génial, moi, ça donne envie. Et toi, Victor ?
Alors moi, c'est généralement hashtag optimiste, presque, je dirais, hashtag too much optimiste. Il faudrait plutôt être... Ça, c'est le côté réaliste. Et sinon, Farmer Life, je la vois tout le temps sur hashtag Farmer Life, ce qui est un truc assez connu. Mais je ne m'identifie pas trop à ça, mais je trouve assez intéressant quand même.
Alors, je pense qu'on va avoir l'occasion de creuser un petit peu. Vous avez tous les deux fait une forte transition professionnelle, j'en parlais dans l'introduction. Avant d'aller vraiment plonger au cœur du pain et de tous ces aspects, quel a été pour toi, Aurélie, ton plus grand obstacle à franchir de par cette transition et peut-être ta plus grande victoire ? En quelques mots.
Alors, je pense que c'était... Donc, j'ai travaillé 18 ans dans l'industrie alimentaire. Donc, je crois que le plus grand obstacle, c'était de freiner la machine, même de la stopper, pour ensuite pouvoir transitionner et puis passer à une autre activité professionnelle et à une autre vie aussi. Et puis, je crois que ma plus grande victoire, c'est que... Aujourd'hui, j'ai des clients qui reviennent acheter le pain chaque jour. Et de voir des clients satisfaits, ça c'est une belle victoire. Et puis de se sentir super bien entouré, vraiment dans un climat très solidaire, c'est aussi une grande satisfaction.
Et pour toi, Victor ?
Alors pour moi, en fait, justement, j'ai travaillé quelques années dans le milieu de l'environnement. J'étais assistant de recherche dans le domaine des cours d'eau. Et suite à ça, après, j'avais gagné un prix par rapport à un des projets qu'on avait menés en Haute-Loire. Et j'imaginais plutôt justement une vie dans un bureau, moitié à l'extérieur, bureau d'ingénieur. Et je pense qu'en passant dans ce monde agricole, le plus grand défi, ça a été d'accepter c'est la diminution du temps disponible, du temps libre, et de devoir accepter que la météo reste en fait notre fil conducteur. Et pour vous donner un exemple, dimanche avec ma femme, on était en train de discuter, je dirais de manière assez complexe, sur le temps que j'ai à disposition. Et à ce moment-là, on m'appelle parce que mon troupeau de moutons était sur la route cantonale. Alors du coup, ça tombe un peu à point nommé pour donner un bel exemple de la situation. Et ça, je dirais, c'est pas fâcheux, c'est juste faut être prêt à l'accepter. Faut être prêt à endosser cette histoire liée à la nature et compagnie. Puis, au niveau des victoires, moi je dirais que j'ai pas une grande victoire, je suis extrêmement satisfait d'avoir pu mener plein de petits projets, parce que justement quand on travaille dans une ferme diversifiée comme la nôtre, il faut avoir une vue d'ensemble et on a plein de petites activités. Et je suis, ma plus grande victoire, c'est d'être capable de passer des semaines complètes à manger que en autonomie, en autosuffisance, parce qu'on a même des pâtes, des choses comme ça, et d'aller assez peu souvent dans la grande distribution. Ça me fait toujours bizarre des fois quand je vais à la COP ou à la Migros, ouais. pour ne pas les citer. J'ai Orange, on dira pour la prochaine fois.
C'est deux planètes différentes, c'est vrai. Alors, il y a quelques semaines, j'ai assisté à une table ronde organisée par l'EPFL, Alimentation durable, qu'il y aura-t-il dans nos assiettes en 2050 ? Animée avec le professeur Marc Dufumier. J'ai aussi été interpellée par une remarque de Gino Bourdry, qui travaille avec son équipe de chercheurs à l'EPFL sur le coût réel des aliments. Il mentionnait que nos choix pour un système de production agricole et nos choix pour un système de consommation alimentaire sont indissociablement liés. C'est-à-dire que choisir ou voter pour un système agricole intensif et durable, comme l'agroécologie, peut tout à fait nourrir la population en 2050. Ça, c'était l'affirmation lors de cette conférence. Sauf si, du côté de la consommation, le mangeur continue de demander toujours plus de viande à un prix toujours plus bas. Pour résumer la chose grossièrement. Donc là, on n'a tout simplement pas les ressources si les deux systèmes ne vont pas dans le même sens. Ainsi, si on peut changer du côté de la fourchette, ainsi, plus on peut changer du côté de la fourchette, plus on donne de choix à la production. Victor, comment vois-tu l'évolution du système de production dans ton activité ? As-tu des exemples ? As-tu des histoires vécues à nous partager ?
Oui, alors, vu que je suis arrivé sur la ferme en 1994, quand j'avais 4 ans, j'ai baigné dans le monde agricole. Vu que ma grand-mère s'était séparée, j'avais comme deux grands-papas agriculteurs et deux grands-mamans agricultrices. Donc ça a fait x2 la présence paysanne quand j'étais tout petit. Et j'ai du coup une bonne quantité d'histoires et de souvenirs par rapport à ce monde, comment le monde rural il s'est transformé. Pour donner quelques exemples, je dirais un petit peu de ce que tu as dit, que je trouve très juste, que le consommateur peut amener un choix direct par rapport à la manière de produire, c'est corrélé de manière clairement positive, et ça j'en suis convaincu. Je vous donne un exemple. À l'époque, on avait une ressource en main-d'œuvre qui était beaucoup plus élevée dans l'agriculture. Ma grand-mère, elle allait aux noisettes, dans les haies. Donc les haies, elles avaient une fonction de garde-bétail autour des champs. On allait aux noisettes. Avec mon grand-père, on avait un saule des vanniers, un saule fragile derrière la ferme dans lequel on faisait des paniers. Donc on était vraiment dans une ressource durable de faire des paniers en osier. Tous ces petits gestes, ça peut paraître anodin, mais en fait, ça témoigne du fait qu'on avait une productivité nette de l'écosystème qui était plus grande. Par unité de surface, on allait travailler, on allait aux champignons, au bois, dans un espace qui était beaucoup plus réduit. Mais pour ça, il faut beaucoup plus de travail manuel. Et maintenant, vu que la main-d'œuvre coûte beaucoup plus cher, et ben du coup, l'intensification du système de production a été directement corrélée avec des prix bas, ce que je dirais là, l'ensemble des consommateurs veulent, fait que on est obligé de tendre vers ce modèle. C'est un fait. Quand on voit les dernières statistiques qui témoignent que le panier moyen de la consommation s'élève à 6% pour l'achat de l'alimentaire brut et le même équivalent de 6% pour les bars et restaurants, nous, c'est notre clientèle. Ça veut dire que c'est la masse financière avec laquelle je vais pouvoir faire tourner ma ferme, parce que je suis en pleinement direct. Alors du coup, je suis convaincu que en ayant des consommateurs qui sont plus attentifs, qui ont des envies de consommer plus local simplement, et ben on peut mettre déjà plus d'argent dans le système agricole, avoir une satisfaction qui est meilleure, et puis du coup être capable d'intensifier au niveau manuel nos cultures. Parce qu'en fait, le crux, il est là. C'est simplement que si on veut faire du bio-intensif, il faut juste des gens. Qui c'est qui vient travailler ces dernières semaines de pluie ? C'est assez compliqué, quoi. Donc voilà. Donc justement, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je suis fondamentalement convaincu que l'agriculture peut se transformer pour autant qu'il y ait de la main-d'œuvre qui veut venir y travailler. C'est fondamental. Et que du coup, le prix soit en conséquence. Et ça, c'est... Nous, on le voit au quotidien. On fait plusieurs marchés. On a des grosses discussions avec la clientèle qui nous dit « Mais pourquoi ce prix-là, il est le double que dans d'autres endroits ? Vu que vous faites de la vente directe, ça devrait être justement moins cher que dans la grande distribution. » Puis on essaie de comparer ce qui est comparable. Et on dit « Voilà, nous, vu nos coûts de production, la manière dont on travaille, on est obligé d'avoir des coûts de production tels. Donc, du coup, si vous venez chez nous et vous achetez nos produits, vous garantissez un système de production agroécologique. »
Aurélie, de ton côté, si on parle système de consommation, comment vois-tu l'évolution de la relation entre le consommateur et le produit ?
Alors, au niveau du pain, la filière, elle s'est quand même fortement industrialisée ces dernières années. On voit que les grandes surfaces, les grosses structures mettent de plus en plus d'énergie sur la vente de pain, essayent aussi de copier l'artisanal. Il y a énormément d'outils marketing aussi pour faire apprécier ce pain qui reste quand même industriel. Donc on voit en supermarché les étiquettes cuites au feu de bois. Ils marketent énormément les pains spéciaux aussi. Donc cette structure, cette industrialisation, elle a deux effets. Elle entraîne une pression sur les prix. Donc comme le disait aussi Victor, le prix du pain baisse, sa qualité aussi. Et puis, en parallèle, ça conduit aussi à une érosion du savoir-faire artisanal, finalement. Et on oublie, en quelque sorte, comment faire du pain. Et on oublie l'origine du pain même. Donc, avant l'émission, on parlait de, finalement, comment devait être le pain. Mais on devrait plutôt... Enfin, comment on aime le pain, on devrait plutôt se demander comment lui devrait être, finalement. Puisque ça reste une matière vivante avec des céréales et des agents naturels levants qui changent tous les jours, finalement. Et donc, le consommateur, je pense, est un peu perdu dans cet univers-là, parce qu'il y a... D'un côté, des prix bas et finalement un produit bien marketé qui semble naturel. Pour autant, on voit que les pains artisanaux, les pains spéciaux, ça représente quand même 10% sur le marché suisse, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc il y a quand même une volonté de certains consommateurs de revenir à des pains plus artisanaux. Ça reste des consommateurs qui sont dans les grandes villes pour l'instant, très peu représentés dans les milieux ruraux, dans les villages. Mais voilà, on voit cette évolution, donc il faut rester positif. Il y a de l'espoir.
Donc, juste pour être sûre que j'ai bien compris, donc dans les zones rurales, les gens achètent le pain en supermarché. Le pain qui est pré-cuit ou... se cuit sur place ou ce genre de choses.
Ou même des fois dans certaines boulangeries, mais qui ont déjà dû avoir une certaine dimension qui fait, avec aussi des contraintes économiques énormes, qui fait que quand même la qualité du pain baisse. Donc il y a une réelle remise en question, je veux dire. Il y a une telle pression sur la filière, en fait, que... Même les petits artisans boulangers, des fois, sont contraints à avoir une certaine échelle pour pouvoir survivre, en fait. Ouais.
Donc, c'est en termes de quantité, il faut avoir une certaine... il faut pouvoir fabriquer, produire une certaine quantité pour pouvoir en vivre.
Et
un certain prix. Et quitte à sacrifier... le savoir-faire, quitte à sacrifier la qualité des ingrédients.
Après, on a des contraintes de main-d'œuvre, donc on va peut-être privilégier une machine au lieu d'un collaborateur. Et puis, le fait d'utiliser la machine va nous contraindre d'utiliser certaines farines, certains agents levants, certains additifs. Et puis, la machine est lancée. C'est pas qu'on veut mal faire, c'est qu'on est de nouveau dans un cycle infernal qui nous pousse à faire différemment.
Ouais. Alors, on va essayer de reprendre une petite note optimiste. Après tout, c'est vos hashtags, comme ça que vous êtes décrits. On va valoriser les solutions, parler du champ des possibles, parce que des solutions, il en existe. Pour reconnecter ce système agricole et le système de la consommation ou le choix des consommateurs pour essayer de rééquilibrer. Et la preuve, c'est votre projet. Est-ce que vous pouvez un peu nous le présenter, nous le raconter, puis vos rôles et vos attentes, car il est tout juste lancé, ce projet. Alors, Victor, tu commences?
Alors, en fait, le projet est Epimobile. Il est né de la rencontre de Alix Pécou, moi-même et le directeur du parc du Jura vaudois. Au tout début, c'est pas là qu'on a créé le projet, mais on a commencé comme ça. Parce qu'en fait, moi, j'avais acheté un moulin au tout début de la ferme. Dès que j'ai repris en 2017, c'est le premier investissement que j'ai fait sur la ferme, c'est un moulin qui, en fait, s'est déplacé dans à peu près tout les structures de la ferme. Il a été à 6 mètres de haut, en bas à la cave. Je crois qu'il s'est baladé partout, ce moulin, jusqu'à trouver enfin une place, pas mal d'années plus tard, pour en faire quelque chose. Parce que moi, vu que je mène pas mal de projets de front, je n'arrivais pas tout seul à faire ce projet de meunier. Je me suis dit, ben voilà, être paysan meunier, c'était quelque chose que je trouvais toujours intéressant. Et du coup, en rencontrant Alix, lui avait la motivation aussi de dire, mais pourquoi pas. Puis après, on s'est vite rendu compte que... vu notre structure, il fallait nécessiter d'être plus que deux. Donc on a approché le parc a dit « Ah, mais nous, on peut essayer de monter quelque chose, on essaie de restructurer une filière dans l'ensemble du parc. On a des variétés de blé qui sont locales, en plus à Changin, qui est l'agroscope qui s'occupe du développement de certaines céréales. Ils ont tout un panel et des collègues replantent, ressèment certaines variétés qui étaient stockées. Par exemple, le rouge de marche ici, qui est une variété locale du village d'à côté, j'ai des collègues qui l'essaient. On s'est dit, ah, mais ça pourrait être hyper intéressant de restructurer tout ça. Et puis de là est né un projet en disant, mais voilà, tout seul, on n'arrivera pas à trouver les fonds pour ça. Donc on va se faire aider. Puis après, on a commencé au sein de la coopérative de Rignol avec Aurélie Barberis, la boulangère, qui fait des miracles. qui est avec son pain, c'est vraiment incroyable. On s'est dit, là, c'est tout trouvé. Il faut faire une filière pain, un pain labellisé par Jura vaudois. Et puis on s'est retrouvé comme ça. Et j'arriverai pas à dire quand est-ce que la première fois on s'est vu pour parler de ça.
C'était en novembre.
L'année passée.
22, ouais. Octobre-novembre 2022.
Et du coup, on s'est, à ce moment-là, on a vraiment lancé le projet. Et on ne peut que remercier Hélène, collaboratrice au Parc Jura vaudois, qui a fait un travail énorme et qui n'a pas récolté les lauriers en fait, de ce projet parce qu'elle était en congé maternité quand l'État nous a porté lauréat. Donc voilà, on a une pensée pour elle qui n'était pas là. Donc voilà. Et puis elle a fait un travail vraiment, celle qui nous a poussé à aller jusqu'à la victoire. On peut dire ça.
Elle a vraiment fait un travail formidable pour réunir les partenaires. Parce que finalement, c'était un peu le challenge quand on a tous des activités professionnelles indépendantes. Mais Hélène a vraiment su aussi nous rassembler et puis mettre le projet sur pied.
Parce qu'en fait, le problème, il est là. On n'a jamais de temps disponible, enfin assez peu, pour pouvoir avoir le temps de créer des appels d'offres, des dossiers qui pourraient nous aider. C'est un peu ça où on peut remercier le Parc Jura qui a réussi à trouver des acteurs. Et maintenant, on est dans le comité de pilotage avec l'association. On est 5 personnes, dont une productrice, 3 producteurs et le Dorignol, la coopérative qui a aussi une part. Et dans ce cas-là, en fait, pour essayer de structurer la filière, on avait besoin de toucher des épiceries. Et surtout, le projet a une composante de système de livraison. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on fait de la vente directe, on est toujours dans les mêmes endroits. On voit les voitures qui se croisent, qui arrivent dans les mêmes boutiques l'une après l'autre, de Genève un peu à Lausanne, on pourrait dire ça comme ça. Et en fait, il y a vraiment un réel besoin de B2B, un peu du dernier kilomètre d'une filière de livraison. Et ça, pour vous dire, on a des pistes. Mais on n'a pas encore tout...
Non, on n'a encore pas...
Voilà, le tableau derrière nous qui est extrêmement complexe. Voilà, c'est à peu près le flux de notre pensée avec des coûts. Non, c'est vrai, si les grosses entreprises se cassent les dents là-dessus, on voit que nous aussi, mais nous, on a une autre petite échelle.
Une dernière chose, je pense qu'aussi avec ce projet, on peut aussi sensibiliser, c'était aussi un des objectifs, la population, enfin les collectivités, de nouveau à cette filière, à ce savoir-faire, au challenge de cultiver le blé, de le transformer, etc. Donc l'association, c'est peut-être le but premier de nos activités, puisque voilà... On reste des indépendants, mais je pense que ça peut quand même nous ouvrir des portes. Oui. Ouais.
C'était exactement la question que je voulais amener. Comment est-ce qu'on développe cette éducation ? Car il est évident qu'on est déconnecté. On est beaucoup de personnes qui habitons dans les villes. Même au niveau rural, les gens qui habitent dans des petits villages, ils peuvent être très déconnectés de ce qui se passe. Et aussi, je voudrais rebondir sur un épisode, Victor, que tu avais amené quand on avait commencé à préparer cet épisode. Et c'est le Farmer Life, hein, aussi un petit peu. Donc, tu disais qu'un dimanche, il y a des promeneurs qui s'étaient arrêtés au bord de ta ferme. Et puis, ils avaient commencé à s'intéresser, à te poser des questions, mais finalement, plus à essayer de te prodiguer des conseils sur comment produire. Et c'était assez incroyable de voir des personnes qui n'avaient jamais mis les pieds dans la terre, voilà, qui tout avec beaucoup de bienveillance se permettaient de juger d'un métier. Ça peut être rageant, ça peut être dévalorisant, on peut bien le comprendre, mais au-delà, moi, ce que je trouve qui est frappant, c'est cette incompréhension. On parle de déconnexion, mais c'est aussi incompréhension. Est-ce que tu pourrais en toucher quelques mots, expliquer, revenir sur... sur tes choix agricoles, peut-être revenir sur cette politique agricole qui encadre les droits, les devoirs des agriculteurs en guise de sensibilisation.
Oui. Alors c'est un gros morceau que vous me lancez là, parce que je dirais la politique agricole c'est complexifié de manière assez phénoménale ces dernières années, mais en gros je pense que c'est assez légitime de poser des questions aux agriculteurs, agricultrices qui cultivent au quotidien, qui font de la production, parce qu'on ingère au quotidien tous ces aliments. Des fois, on a des messages très contradictoires qui arrivent de plein de calots d'informations. Et c'est normal. Je dirais, c'est tout à fait normal. Je vais donner cette anecdote, après j'expliquerai l'histoire de la politique agricole, mais en gros, une fois, j'étais en train de traiter des hautes tiges, parce que je conserve des hautes tiges de vieilles variétés de poiriers où j'ai mis mes cochons, et c'est vrai que si on veut faire les choses correctement, on doit s'habiller comme un cosmonaute. Donc on se met avec un masque et tout, une combinaison, j'avais une brouette de traitement, je traite, et c'est vrai que du coup, les gens m'ont interpellé en disant « Mais pourquoi vous faites ça? C'est complètement dingue et tout. » Puis je dis « Mais non, c'est une huile qu'on mélange avec de l'eau, c'est bio, voilà, c'est pour protéger en hiver, voilà, j'explique. » Mais j'ai des collègues qui, à l'inverse, je dirais, des fois, vont donner une image où on ne se protège pas. Je pense que j'aurais fait la même chose sans ma protection individuelle, sans le masque et tout ça, ben j'aurais pas eu l'air de ce cosmonaute en bleu qui vient faire traiter. Donc là, c'est aussi, je pense, le côté de la confiance, peut-être plus que l'interrogation qu'on a perdue. C'est, nous, on est des producteurs, il faut, je pense, nous faire confiance par rapport à la manière dont on produit. La politique agricole en Suisse, je dirais, c'est une politique assez particulière par rapport aux autres pays qui nous entourent. On fait quand même partie de la politique agricole commune. Néanmoins, l'État nous aide pour des... On reçoit on pourrait dire des formes de compensation par rapport en fonction du travail fourni et en fonction des différents programmes dans lesquels on travaille. Je pense qu'on ne va pas faire maintenant un cours complexe de politique agricole. Néanmoins, ce qu'il faut quand même voir, c'est qu'on est extrêmement, je dirais, diversifié dans les actions qu'on peut mener. Des actions environnementales, des actions de soutien à la production, à la diversité. Et je pense que là, la population, des fois, ne comprend pas tout le temps. Pourquoi des fois il y a des fermes avec des très gros tracteurs, des fois pourquoi on est dans des modèles beaucoup plus petits. Et ça, c'est des effets qu'on peut pas, je dirais forcément non plus changer à une échelle courte. La culture, moi dans ma vie, si je récolte 30 fois du blé, c'est grand maximum. C'est quand même, j'ai que 30 fois pour m'améliorer. Et surtout les chercheurs, une variété pour la créer, genre ben, du blé avec la farine, généralement ça prend 10 à 14 ans pour créer une variété. Donc c'est-à-dire que entre créer la variété, nous les nouvelles contraintes, m'adapter, faire mieux... En fait, c'est un laps de temps qui est très court. Donc des fois, c'est ça qu'on devrait, je dirais, essayer d'approcher la population. Donc voilà, faites-nous confiance. Les mesures qu'on met en place actuellement dans l'agriculture sont peut-être pas forcément toutes top, il faut le dire. Hein, y a des choses qui ont amené une vision un peu négative. Néanmoins, je pense que malgré tous les systèmes de production qui ont été mis en place sur la Suisse, on a quand même un modèle qui est honnêtement, faut le dire, pas si déconnant, si je peux me permettre de lire comme ça. Vraiment pas, loin de là.
Mais c'est intéressant de l'entendre, parce que le modèle que tu décris, voilà, c'est ces fermes en polyculture, ça semble pas être la norme du tout. Et ça semble être plutôt un peu à la marge. Donc la politique agricole ne sert pas particulièrement ce genre d'agriculture.
Non, parce qu'en fait...
Ni les micro-fermes, ni la permaculture.
Exactement, parce qu'en fait, ce qu'il faut aussi voir derrière, c'est la charge liée à la diversité. À l'époque, par exemple, le canton soutenait 2 mesures. Maintenant, on est à 168 mesures cantonales. Donc, il faut beaucoup d'administratifs pour soutenir les mesures, contrôler qu'on fait juste. Nous, il faut s'y retrouver là-dedans. Et plus il y a de diversité, plus du coup les charges administratives, les charges de complexité augmentent. Et du coup, en fait, ce n'est pas du tout des facteurs qui s'accumulent, cumulatifs, c'est plutôt des facteurs exponentiels. C'est-à-dire que si vous n'avez que des cultures, après des animaux, après de la transformation, ce n'est pas juste plus, 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 quoi. Je pense qu'on est vraiment sur une courbe exponentielle de charges de travail. Et je peux le comprendre que du coup, bah, par volonté de simplification, d'avoir simplement de se sortir des fois de cette routine, des fois d'avoir plus de temps libre ou des choses comme ça, ben du coup on tombe dans des modèles plus simples. Il faut dire, mon grand-père, faut le dire, quand ils ont eu les herbicides, ils ont adoré ça, quoi. Parce que ouais, c'est un fait, quoi. Genre, tu dis, purée, c'est 100 heures de travail versus 15
minutes. Je vais gagner ce temps dont on parlait.
Voilà, donc là... C'est comme tout fait historique, il faut... comprendre d'où on vient et puis comment aussi on a la pression, bah, tu parlais de l'industrialisation, Aurélie, bah, comment on a les pressions aussi, comment nous être compétitifs avec du farine. D'ailleurs, quoi, c'est, franchement, il faut le dire, c'est très complexe. Ouais. Quoi. Mmh. Donc on n'est que sur des marchés très nichés. Quoi.
Et en termes d'apprentissage, Aurélie, moi je me posais la question, parce qu'on a parlé aussi pendant la préparation de la boulangerie paysanne du 21e siècle. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer, c'est tellement long, je veux dire, 4 ans, tu as encore le sentiment d'être en formation, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les gestes, ou qu'est-ce que c'est cette boulangerie du 21e siècle, la boulangerie paysanne du 21e siècle?
Vaste sujet.
Ouais. C'est une fourche à l'entrée.
Mais je pense qu'il y a déjà dans la compréhension de la fabrication du pain, il y a les matières premières à la base. Parce que même avant de démarrer mon activité, je pense que j'ai passé pas mal de temps à chercher déjà les matières, déjà les farines qui me convenaient en fait. Alors, on a une chance inouïe hein, dans le canton, en fait. Et c'est aussi quelque chose que j'ignorais, c'est qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui cultivent leur blé et qui font eux-mêmes leur mouture. Donc, Victor en fait partie. Mm-hmm. Donc, essaye aussi de se mobiliser pour aussi avoir une valeur ajoutée à leur culture de blé. On a aussi des moulins vraiment locaux qui font un travail extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment la base de la boulangerie paysanne, je dirais. Sans bonne matière, on ne fera pas du bon pain. Et ça, je suis vraiment attachée à ça. Et je mets vraiment un pied d'honneur à mettre cette matière en avant. Je pense que c'est tout son intérêt. Et puis ensuite, ben, on a aussi le temps qu'on veut... s'accorder à fabriquer le pain. Donc on est passé, donc ancestralement on utilisait le levain naturel. Donc le levain, c'est un simple mélange d'eau et de farine qui fermente naturellement, et il y a une population de levure qui se développe. Donc c'est un pouvoir levant extraordinaire. Donc ben, voilà, c'est on fabriquait le pain comme cela avant, et puis on est passé à des levures plus concentrées pour pouvoir aller plus vite finalement. Donc, c'est de nouveau ben, s'accorder du temps pour fabriquer le pain. Donc, le temps, c'est de l'argent, bien sûr. Mais c'est aussi, pour le pain, c'est aussi un gage de qualité. Ça, c'est certain.
Combien de temps ça te prend, peut-être à partir du moment où la farine rentre
Donc, à partir du moment où on mélange la farine, l'eau et le vin et le sel. Donc, c'est finalement les ingrédients principaux du pain. Il faut bien donc de mon côté j'ai plus de 12 heures de fermentation, donc on est en fermentation ce qu'on appelle lente. Un pain poussé à la levure, une heure suffit, voilà, juste pour donner Et pareil, enfin après toutes les étapes de fabrication, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais donc on va pétrir le pain. Donc on peut même fabriquer son pain finalement sans le pétrir. Hein. On pourrait simplement mélanger et puis attendre, ça marche. Bon, on le pétrit quand même. Et là, pareil, il y a différentes méthodes de pétrissage. Donc on peut de nouveau aller très vite. En quelques minutes, le pain est pétri. Sur des savoir-faire plus classiques, plus respectueux, on va aller sur un quart d'heure, 20 minutes de pétrissage, ou des fois on fait le choix de ne pas pétrir, et puis on va adopter d'autres manières de donner du corps à la pâte, donc ce qu'on appelle des rabats par exemple. Voilà. Donc, on travaille la pâte différemment, sans pétrir. Donc c'est aussi des choses que je pratique.
Qu'est-ce que tu pratiques ?
Voilà.
Tu pratiques les différentes méthodes en fonction de...
Oui, alors pratique pas toutes parce que je pense qu'on apprend toute sa vie quand on veut devenir... on décide d'être boulanger ou boulangère. Mais voilà, les grandes lignes. Donc voilà, je pense qu'il faut du temps. Après, donc les matières premières, le temps de... pour laisser le pain se développer et développer ses arômes. Puis après, il y a l'étape de cuisson qui est aussi là. C'est le moment magique dans le travail du boulanger, quoi. Quand le pain sort du four, quand il gonfle dans le four, quand les panettones gonflent dans le four.
Ils ont
et puis quand on sort le pain et puis qu'il pétille encore sur l'échelle. Donc c'est des moments magiques.
Au petit matin.
Au petit matin. Voilà, ça par contre, il faut aimer se lever tôt.
Alors, justement, je vais maintenant passer la parole à Laurence.
Aurélie et Victor, merci pour nous avoir fait cheminer en fait au cœur de votre transition vers, on va dire, une alimentation plus durable. On a compris que ça prenait, on va dire, que vous allez relever pas mal de défis au quotidien. Il y a un mot que j'ai entendu souvent dans ce que vous avez dit, c'était le mot temps. Le mot temps, le mot aussi compromis, le mot argent, ou prix, on va dire, prix des choses. Et on se posait un peu la question, en fait, maintenant on va parler à Aurélie et Victor dans le quotidien, hors de votre boulangerie, hors de votre ferme. Vous avez fait un choix de transition professionnelle qui a manifestement impacté ce temps. J'imagine aussi vos revenus et votre relation à l'argent, qui impacte aussi, j'imagine, pas mal votre énergie quotidienne, puisque vous dites que vous faites quand même beaucoup. comment vous arrivez à gérer tout ça et quel compromis, en fait, vous avez fait ? On a, nous, tendance à dire qu'on est parfaitement imparfait. Parfaite. Alors peut-être que vous êtes parfait ou parfaite, mais on se demandait, voilà, est-ce que vous pouvez peut-être nous partager un petit peu aussi justement ces défis du quotidien et comment vous arrivez à les surmonter.
Alors c'est vrai que c'est un sujet qu'il faut dire un petit peu. Honnêtement, assez tendu, parce que des fois, on oscille entre des énormes satisfactions. Franchement, après une année de travail, par exemple, de faire des choses comme des récolter pour plein champ de blé, d'aller au marché, d'avoir une satisfaction avec les clients, les gens reviennent, puis ils sont là, mais c'est tellement dingue ce que vous faites, trop cool. C'est génial. Et puis après, des fois, être dans des moments, je dirais des fois un petit peu plus d'angoisse, parce que ce qu'on fait impacte directement notre revenu. Ça veut dire que du coup, la qualité de notre travail, le temps qu'on peut avoir à disposition pour notre famille, c'est, je dirais, un peu les grands classiques, j'imagine, de l'entrepreneuriat. Moi, je vois la seule chose qui est différente, que j'en ai déjà parlé avant, c'est le côté un peu de la nature, ce côté non-calendrier, quoi. Ça, c'est vrai que, du coup, c'est quelque chose, je pense, qui, si on n'est pas capable de l'admettre, c'est compliqué. Mais moi, je suis tout le temps extrêmement, je dirais, satisfait par rapport à ce qu'on fait. Ça nous booste. Franchement, c'est une énergie incroyable. Mais c'est vrai que le mot temps, il est assez juste. C'est pas foufou, quoi. Puis surtout dans notre filière agroalimentaire, par exemple, si je regarde les collègues avec qui je travaille, les personnes avec qui j'emploie, c'est aussi compliqué de de travailler aussi dans cette filière, car les conditions de travail sont assez rudes. Le temps de travail que je peux demander aux gens avec qui on travaille, c'est plus élevé. Ça peut aller jusqu'à 51h30, la moyenne sur la semaine. Et c'est vrai que du coup, ce mot temps, il est, je dirais un peu, c'est le crux de cette filière peut-être industrielle, agro-industrielle, qu'il faut qu'on puisse changer pour pouvoir arriver dans un autre système. Si on veut tenir, moi j'ai toujours dans la culture, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est qu'il faut... Il faut viser à long terme, il faut avoir une vision sur le développement des végétaux sur le long terme. Puis ça, il ne faut pas être né dans le guidon tout le temps. Puis ça, c'est ces petits moments comme maintenant, on est en train de partager, changer un peu de notre bulle, s'extraire dans un hub d'informaticien. ça nous fait un petit moment d'air pour reprendre de la hauteur ou avoir une autre vision.
Et toi, Aurélie ?
Ouais, je crois que j'ai un peu le même ressenti. C'est vrai que depuis que j'ai transitionné... Déjà, je pense qu'il faut être bien entouré. Je crois que j'ai cette chance. Enfin, c'est pas je crois, j'ai cette chance. De ma famille, de mes amis très proches, je veux dire, qui permettent aussi le développement de l'activité. Et puis après, je dirais pas qu'on a moins de temps, mais on utilise notre temps différemment. C'est vrai qu'avant, j'étais à un temps de travail assez bas. J'ai été à 50%, à 80%. Aujourd'hui, je travaille 6 sur 7. Et puis, finalement, je suis heureuse. mais voilà, c'est vrai que, comme dit Victor, c'est des petits moments de la vie que peut-être qu'on apprécie plus. On court moins. On prend plus le temps de vivre les choses. Je pense que c'est peut-être un peu la clé, quoi. Puis, ces petits moments de... J'apprécie peut-être plus qu'avant. Avant, j'ai parcouru le monde. Et puis finalement, maintenant, d'aller à Lausanne, c'est chouette, quoi.
C'est clair.
Si tu m'enchaînais l'importance, et je pense toi aussi, Victor, d'être entouré, d'être bien entouré. Et là, j'ai une question peut-être qui pique un peu, c'est que vous avez fait un choix au départ personnel de changer de vie professionnelle, mais qui a des conséquences sur votre entourage, sur votre famille et aussi sur votre mode de vie. Alors, je ne sais pas comment c'était avant, je ne pense pas de vous avoir entendu que vous avez divergé complètement, mais peut-être suivi le chemin dans lequel vous étiez engagé, mais peut-être de manière encore plus poussée. Donc, dans vos choix de consommation, dans vos choix de vie... tu disais, maintenant tu travailles 6 jours sur 7. Comment votre entourage a perçu ça et vous accompagne aussi dans ce changement, en fait ?
Il faudrait les inviter. Non, je pense que c'est très positif. Parce que aussi, c'est concret. Je pense, par rapport à mes enfants en tout cas, j'ai deux enfants de 10 et 13 ans. Je pense qu'ils ne comprenaient juste pas ce que je faisais avant. Aujourd'hui, c'est très concret, ils sont très impliqués, mettent beaucoup d'énergie à parler de la boulangerie, ils en sont très fiers en fait. Et ils ont aussi l'occasion de venir travailler. Voilà, j'emploie personne. Hein. C'est pas de mineur que tout le monde m'écoute. Vous couperez, hein. Non, mais voilà, c'est juste pour dire, c'est très concret pour eux. Donc finalement, ils acceptent ce changement, même si, je suis sans doute plus prise qu'avant, et encore, je sais pas, je suis prise différemment.
La qualité du temps a changé.
La qualité du temps a changé. Ouais.
Et du pain aussi.
Ouais. Et ouais, on a du bon pain à la maison.
Et pour toi, Victor, qui a une activité aussi, je pense, très prenante en temps aussi, en énergie aussi, j'imagine.
Alors, du coup, moi, je peux que remercier ma famille et les gens qui m'entourent parce que des fois, je leur fais vivre des choses, je dirais, simples, avec, je dirais, l'énergie souvent que je dirais, le travail ne me fait pas peur. Je suis très motivé à créer toujours de nouveaux projets. Alors, du coup, c'est sûr que des fois, le côté prenant, il motive, quoi. On est entrepreneur, on a envie que ça avance, donc on est juste comme ça. Donc je peux que les remercier de nous soutenir et de pouvoir participer, parce qu'en fait, tous ensemble, en fait, ils participent à l'histoire qu'on est en train de créer. Souvent, dans les modèles agricoles, ce sont des modèles familiaux. Donc, moi, je suis un peu baigné là-dedans. Donc, c'est un peu une histoire aussi de transmission. Il y a quelque chose assez particulier de cette transmission, de l'endroit dans lequel on a grandi. Bah, comme Aurélie, tu disais très justement, moi, j'étais très, très vite baigné dans la ferme, aller conduire les tracteurs très tôt. Ma mère, qui ne vient pas du tout du monde agricole, bah, du fois, trouvait ça un peu inquiétant. Conduire les gros tracteurs tout petits... Mais après, en tant qu'enfant, on a adoré faire ça. Et puis, du coup, je le vois avec mon fils, qui, du coup, a toujours plein de questions, voit les choses de manière très pratique. Il voit la vie de côté très, très, très pratique, dans une autre vision. Et ça, je trouve ça très chouette de pouvoir accompagner un enfant qui grandit là-dedans. C'est vraiment génial. Ma famille, Leslie, ma conjointe, je dirais, c'est des personnes qui sont importantes pour monter ce genre de choses. Mm-hmm. C'est fondamental, quoi. Mm-hmm. Puis j'ai aussi eu un psy qui m'a aidé parce que sinon j'allais craquer, quoi. Donc lui, je peux aussi le remercier. Et lui, il va le payer. Mais du coup, sans lui, je pense que je serais pas arrivé non plus, quoi. Faut le dire, hein. On est obligé. Donc on se fait entourer. Voilà. Donc on s'est fait clairement entourer, quoi. Ouais. Et c'est vraiment des projets qu'on porte en famille. Puis c'est très chouette. En même temps, voilà, ce côté familial, il est à double tranchant. C'est génial parce que du coup, l'ensemble de la famille participe. On porte un truc tous ensemble. C'est cool. En même temps, des fois, voilà, c'est vecteur de temps où on passe un peu qu'on est là-dedans, quoi. Mm-hmm. Enfin, sortir d'autre chose, c'est aussi important. Mm-hmm.
Bah, d'où aussi les amis. Faut élargir un petit peu le cercle aussi, que ce soit pas que fermé à la famille. Je pense que c'est important aussi d'avoir du support, entre guillemets, un peu plus externe, qui permet de...
Tu les as tirés à coups de panettone.
Non, merci pour ça. Et c'est important, je pense, de partager ça aussi pour ceux qui nous écoutent, pour comprendre un peu vos métiers et peut-être aussi, inspirer aussi des gens à faire un peu ou à marcher sur vos pas et à voir que, voilà, des solutions existent.
On recrute des nouveaux boulangers.
Ouais, c'est ça, on recrute.
Avant de passer à la dernière partie qui est notre petit quiz rituel, est-ce que vous avez une expérience chacun, personnelle, récente, qui vous a touché? Alors, vous avez évoqué en fait quelques-unes quand tu sors le pain du four, quand tu vas au marché, mais vraiment ces petits épisodes qui vous disent « Ah ben, je fais bien de me lever chaque matin ». C'est vraiment ce qui me donne un peu cet élan.
Oui, alors je disais, de mon côté, c'est vraiment... des témoignages de clients qui me disent aimer le pain qu'on fabrique à la boulangerie, en fait. Où il y a des enfants dans le village, je sais qu'ils adorent, ils prennent leur petit porte-monnaie, il y a un point de vente dans le village, ils prennent leur petit porte-monnaie, puis ils vont aller s'acheter un cookie, ils raffolent des cookies, après ils sont déçus quand il n'y en a pas, puis ils le racontent à mes enfants, donc... C'est toute une petite histoire. Si on arrive à toucher finalement un peu l'émotionnel des gens, moi, je trouve que c'est gagné. J'en connais d'autres qui ont changé leurs habitudes pour pouvoir venir prendre le pain. Voilà, je trouve ça, c'est merveilleux, quoi. Et on convainc les gens naturellement par l'émotion. Et alors ça, pour moi, c'est une grande victoire.
Et toi, Victor, est-ce que tu as une petite...
Pour ma part, moi, c'est vraiment lié au papy, quoi. C'est comme tu dis, c'est le côté de pouvoir savourer le travail qu'on fait. Je me rappelle très bien au tout début, quand on avait commencé à se diversifier de manière très forte, on avait fait une grosse fête avec plein d'amis. Et en fait, tout ce qui était de A à Z était produit par nous. Et tout le monde était, c'est vraiment hyper bon. C'était une fierté vraiment géniale, tous ensemble, de se dire, déjà, c'est hyper bon, donc on est hyper content, c'est ça, parce que tu pourrais inviter plein de potes, puis c'est pas bon, voilà, ils te le diraient pas trop, mais là, c'est extrêmement, c'est goûtu, c'est chouette, les gens reviennent, ils ont un plaisir à nous écouter, parler de notre métier, goûter, manger, et puis vraiment par les papis, quoi, vraiment le côté où c'est chouette.
Les papis qui parlent.
Exactement.
On va terminer un peu cet entretien avec un petit quiz. Donc, je vais vous poser une question à chacun. L'idée, c'est répondre un peu rapidement. Alors, Victor, quelle a été ta dernière découverte de produits du terroir?
Alors, je crois que c'était la question la plus compliquée que vous m'avez posée jusqu'à maintenant. Parce que parce que du coup j'ai vraiment réfléchi et je me suis dit mais vraiment quelque chose qui m'a marqué et en fait c'est tout simple, c'est il y a longtemps, hein, il y a une année, c'était le panettone d'Aurélie. C'est pas un coup de pub, c'est une réalité. C'est même pas, je te jette des fleurs, mais c'est une réalité. On était en train de penser hier soir, on réfléchissait à ça, puis voilà, on a vu qu'en fait on a aussi une boutique, on achète beaucoup de produits du terroir à d'autres collègues, hein, et on fait de la revente. Et du coup je me suis dit mais qu'est-ce qui... Alors, j'hésitais avec une terrine, quand même. Mais là, franchement, c'est... Non, vraiment, coup de cœur, vraiment. Puis, alors, unanimement. En tout cas, Leslie, ma compagne, clairement, a dit aussi, on a réfléchi. Voilà.
Ah, ça donne envie de le goûter, là. Pour les auditeurs, il est devant nous. On vous encouragera à aller le goûter aussi. Alors, Aurélie, donc, on a déjà dit, nous, on est parfaitement imparfaites. Si tu es un peu comme nous, peux-tu nous avouer une petite imperfection quand il s'agit de ton assiette?
Ouais, alors, j'adore les carambars et les dragibus. Bien transformés. Mais je suis parfait.
Je crois que tu n'es pas la seule. Victor, est-ce que tu as une astuce anti-gaspi assez puissante que tu pourrais partager à nos auditeurs?
Alors, posséder des cochons, c'est... Ouais, c'est... Ah c'est oui. Mon astuce à moi.
Petite astuce.
Petite astuce, hashtag Farmer Life. Non, c'est mais ça. Oui, du coup, en fait, dans mon cycle, pourquoi j'ai pris des cautions? C'est pour justement pouvoir fermer le cycle de tous les produits de légumes, végétaux qu'on récolte. Par exemple, au chou, on en a fait les récoltes de choux. L'ensemble du végétal qu'après, on le donne aux cochons. Par exemple, donc ça, c'est vraiment, en fait, c'est un stock.
Okay.
Old school. Hein.
Voilà. On note. Pas sûr qu'on puisse le ramener chez soi, mais...
Non.
Aurélie...
Tous les loups.
Aurélie, est-ce que tu aurais une association que tu aimerais mettre en avant?
Bah, la nôtre, Épimobile. Mm-hmm. Il y a des volontaires, on cherche des livreurs motivés à se lever le matin.
Pourquoi pas trop tôt quand même.
Le message est passé.
Non, mais sinon, il y a une association que j'apprécie, c'est Lausanne à table. Mm-hmm. Je trouve que c'est très chouette aussi pour donner envie de manger et, dans des environnements un peu insolites. Mm-hmm. Et mm-hmm. Apprécier la bonne table, c'est une chouette association.
Ouais. Très clair. Victor, est-ce que tu aurais un livre ou un site internet que tu aimerais partager?
Alors, j'ai lu récemment une BD, parce que je lis beaucoup de BD, j'adore ça. Une BD qui s'appelle « Il est où le patron ?» Et en fait, c'est sur l'histoire des femmes dans le milieu agricole français. Donc, c'est typiquement, le titre vient de... Par exemple, vous avez la personne qui vient vendre des engrais dans le milieu agricole. Et puis, il y a beaucoup de femmes, hein, qui sont chefs d'entreprise. Puis, la première question, c'est toujours « Il est où le patron ?» Puis, il dit « Bah, enfin, c'est moi, quoi. » Et en fait, c'est un collectif de femmes qui s'est entouré d'une illustratrice qui a fait un super travail sur ce... En fait, c'est une BD qui est hyper bien. Puis en fait, il y a un fond de sensibilisation aussi derrière qui est vraiment très intéressant. Donc voilà.
Ah, bon, on mettra les références. Ça donne envie d'aller regarder. Pour finir, je vais vous poser... En fait, j'aimerais que vous posiez une question à nos auditeurs. Si vous devez les encourager à se poser une question la prochaine fois qu'ils tiendront leur fourchette ou la prochaine fois qu'ils iront faire un achat alimentaire, quelle serait cette question?
Bon, on va rester sur le thème du pain. D'où vient la farine, par exemple?
Et pour toi, Victor?
Compliqué comme question. J'ai réfléchi longtemps. Déjà, est-ce que j'apprécie ce que je mange? Clairement. Ouais. Pour moi, c'est ça.
Ouais, très bien. Merci vraiment beaucoup à vous deux. Avant de se quitter, est-ce que vous avez un dernier mot?
Bah, merci à vous deux et trois de nous avoir accueillis. C'est une chouette expérience. Et merci aux auditeurs.
Merci.
Bah, de pareil, merci beaucoup en tout cas de nous faire pouvoir nous exprimer sur un podcast que j'ai découvert, qui est très intéressant. Et j'ai eu plaisir à écouter deux, trois personnes que je connais, que c'était chouette, dans un autre univers, et aborder ça par l'angle de la fourchette. Merci beaucoup, en tout cas.
Ouais, merci.
Ben, merci à vous. Avec ça, on va conclure donc notre épisode. Pour déguster les pains et gourmandises de la boulangerie à deux pains de la d'Aurélie, qui, je pense, vous auront donné envie, vous pouvez trouver toutes les informations sur son site à deuxpainsdela.ch, rubrique « Où nous trouver ». Vous pouvez aussi lui passer des commandes spéciales et la suivre sur ses comptes Instagram et Facebook. Quant à Victor, pour déguster ses nombreux produits de la ferme, je vous encourage à aller sur son site www.fermeprémartin.ch. Vous trouverez sur le site tous les lieux de rendez-vous pour pouvoir acheter les produits dans les marchés, mais aussi dans différentes boutiques de la région.
Merci à l'agence de communication Shine à Lausanne pour leur soutien et à la fondation Inartis de nous permettre d'enregistrer dans leurs locaux. Si cet épisode t'a inspiré, pourquoi ne pas le partager autour de toi ? Ou nous laisser une note 5 étoiles, ça aidera à le diffuser encore plus de monde. Si tu as des astuces que tu as mises en place qui t'ont fait avancer dans cette transition durable, partage-les en commentaire. Nous serons heureuses de les mettre en avant avec la communauté de Mettons le Couvert. Et pour connaître le prochain épisode, abonne-toi sur la plateforme Odo et sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. Si tu cherches un groupe sympa et motivé à faire changer notre assiette, rejoins notre association en nous contactant à mettonslecouvert@gmail.com. Merci encore pour ton écoute et ton soutien. Nous remettrons le couvert bientôt avec un nouvel invité. Et continuons à planter notre fourchette ensemble et faire de l'alimentation une solution pour recréer le bien-être des générations futures.